Vous écoutez RFI, les 4 heures à Paris, 3 heures en temps universel.
Christophe Drevet.
Au sommaire de ce journal, l'opposition vend debout en Turquie après l'arrestation de son leader, Ekrem İmamoğlu, du parti CHP. Une nuit de la démocratie avait été convoquée ce vendredi soir à Istanbul, où l'opposition revendique 300 000 manifestants. La police est intervenue dans plusieurs villes. Nous retrouverons Adam Dlauer en Turquie. Le bras de fer continue entre la France et l'Algérie. La justice française a refusé d'extrader un ancien ministre algérien réclamé par Alger en raison de son état de santé. L'Algérie déplore, alors qu'elle refuse de son côté de reprendre plusieurs de ses ressortissants que la France souhaite expulser. Et puis au lendemain de la journée mondiale pour la préservation des glaciers, ce samedi est décrétée journée mondiale de l'eau douce. En raison de la fonte des glaces, les rivières débordent et le niveau de la mer monte. Nous ferons le point à la fin de ce journal. Une nuit dite de la démocratie en Turquie ce vendredi soir. À Istanbul, des dizaines de milliers de personnes ont convergé vers la mairie pour dénoncer l'arrestation du maire de la ville, Ekrem İmamoğlu. Et cela en dépit des avertissements du président Erdogan, qui a juré de ne pas céder, je cite, à la terreur de la rue. Dans plusieurs villes, des affrontements ont eu lieu entre la police et les manifestants. Les autorités ont annoncé l'arrestation d'au moins 97 personnes à travers le pays. Placé en garde à vue depuis mercredi pour des accusations de corruption et de terrorisme, Ekrem İmamoğlu doit être déféré devant un tribunal dans la soirée de samedi. À Ankara, Anand Lower.
La contestation s'amplifie et se durcit en Turquie. Dans l'attente de connaître le sort d'Ekrem İmamoğlu et de la mairie d'Istanbul, cette troisième soirée de manifestation a été la plus suivie et la plus réprimée. Le principal parti de l'opposition turque, le CHP, dont Ekrem İmamoğlu est membre, a affirmé que 300 000 manifestants s'étaient réunis autour de la mairie d'Istanbul, devenue l'épicentre de la contestation. Des rassemblements très suivis ont eu lieu à travers tout le pays, notamment à Ankara et à Izmir. Dans les trois plus grandes villes, la police a usé de gaz lacrymogène et de canons à eau contre les manifestants, mais aussi de balles en caoutchouc à Ankara et Istanbul. La tension pourrait toutefois se tendre nettement dans la nuit de samedi à dimanche, si Ekrem İmamoğlu est incarcéré et si la mairie d'Istanbul est placée sous tutelle du gouvernement. Dans un discours à Istanbul, Özgür Özel, le dirigeant du CHP, a lancé une mise en garde au président Recep Tayyip Erdogan, qu'il a qualifié de dictateur. Il a promis d'appeler à manifester samedi soir sur l'emblématique Place Taksim si, je cite, « il nous tape sur les nerfs ». Anand Dlauer, Ankara, RFI.
Israël proche d'une crise institutionnelle après la décision du Premier ministre Netanyahou de limoger le chef du service de sécurité intérieure, le Shin Bet. La Cour suprême d'Israël a suspendu ce vendredi la décision inédite de limoger Ronen Bar, votée par le gouvernement. La procureure générale a par ailleurs interdit à l'exécutif de nommer un nouveau chef du Shin Bet, interdiction aussitôt rejetée par Benjamin Netanyahou. Et puis le ministre israélien de la Défense menace quant à lui d'annexer des parties de la bande de Gaza si le Hamas ne libère pas la soixantaine d'otages qu'il retient toujours. La reprise des opérations israéliennes ont déjà fait plus de 500 morts en 4 jours à Gaza. Il avait été l'un des membres du groupe État islamique en Syrie. La Cour d'assises spéciale de Paris a condamné tout à l'heure Mehdi Nemmouche à la réclusion criminelle à perpétuité. Elle l'a reconnu coupable d'avoir été le geôlier d'otages occidentaux et syriens pour le compte du groupe État islamique en 2013 et 2014. Mehdi Nemmouche purge déjà une peine de réclusion à la perpétuité pour l'attentat du musée juif de Bruxelles. C'était en 2014, il avait alors abattu 4 personnes. La démarche rappelle sa loterie électorale controversée de la campagne présidentielle. Dans le contexte de bras de fer entre l'administration américaine et les juges, au sujet notamment du renvoi de migrants, voilà qu'Elon Musk crée à nouveau la polémique. Alors qu'une élection décisive pour la Cour suprême du Wisconsin doit avoir lieu ce 1er avril, le multimilliardaire a décidé d'offrir $100 à ceux qui signeront une pétition dénonçant, je cite, les juges militants. Marine de la Moissonnière.
$100 pour tout électeur du Wisconsin qui signe la pétition, 100 de plus pour chaque personne qui l'incitera à faire de même. Une fois de plus, Elon Musk met la main à la poche pour peser sur le cours d'une élection. Cette pétition lancée par son organisation politique America PAC s'en prend aux juges qui, peut-on lire, réécrivent les lois en fonction de leurs opinions personnelles ou politique. Le 1er avril, les habitants du Wisconsin sont appelés à élire un juge de la Cour suprême de leur État, cour qui pourrait pencher du côté conservateur, ce qu'espère bien l'homme le plus riche de la planète. Les démocrates, eux, l'accusent d'acheter des voix, alors que son entreprise Tesla vient de porter plainte contre l'État du Wisconsin qui s'oppose à des ouvertures de concessions. Déjà lors de la campagne présidentielle, Elon Musk avait lancé une loterie consistant à offrir $1 million chaque jour à un électeur inscrit dans l'un des 7 États décisifs pour la victoire et qui avait signé une pétition conservatrice. Un procédé illégal lui avait alors rappelé le ministère de la Justice.
Donald Trump a quant à lui annoncé ce vendredi la signature d'un contrat avec Boeing pour une nouvelle génération d'avions de combat furtifs américains baptisés F-47. Comme le 47e président qu'est devenu Donald Trump en étant réélu à la Maison-Blanche, annonce sans préciser le montant, mais qui représente une aubaine pour Boeing. Le groupe traverse en effet une crise profonde depuis plusieurs années, en raison notamment de problèmes de qualité de sa production. RFI, il est 4h06 à Paris. La justice française refuse d'extrader vers l'Algérie un ancien ministre de l'ère Bouteflika, Abdeslam Bouchouareb. Celui-ci avait été en charge de l'industrie et des mines entre 2014 et 2017. Son extradition pourrait avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle, estime la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cela en raison de son état de santé et de son âge, 72 ans. Alors que la tension monte entre les deux pays, Alger refusant de reprendre plusieurs citoyens algériens expulsables du territoire français, l'Algérie dit déplorer une absence de coopération de Paris. Pierre Firsion.
Si le gouvernement algérien dit prendre acte de la décision, il n'apprécie guère ce choix. Dans un communiqué signé du ministère des Affaires étrangères, Alger regrette, je cite, « l'absence totale de coopération du gouvernement français en matière d'entraide judiciaire » et annonce de possibles recours à d'autres voies de droit. Accusé de corruption en Algérie, Abdeslam Bouchouareb, ministre de l'Industrie et des Mines de 2014 à 2017, a été condamné par la justice algérienne à 5 peines d'emprisonnement de 20 ans chacune. Il est aujourd'hui visé dans un autre dossier d'infraction économique et financière. En octobre 2023, une première demande d'extradition le visant est déposée par Alger. 5 autres suivront. Mais mercredi, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté les demandes d'Alger, motif l'extradition de l'ancien ministre qui réside depuis 2019 dans le sud-est de la France, pourrait avoir, je cite, des conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison de son état de santé et de son âge 72 ans. Une décision qui clôt définitivement ce dossier.
De la journée mondiale des glaciers hier, on passe à la journée mondiale de l'eau ce samedi. Vous le savez, partout sur la planète, les glaciers fondent à grande vitesse et libèrent donc de l'eau qui chemine à travers les fleuves et les rivières avant de se jeter dans la mer. Mais quels seront les impacts de la fonte des glaciers sur les rivières de montagne et ses écosystèmes ? Élément de réponse avec Igor Strauss.
C'est un fait, la fonte des glaciers et la baisse du manteau neigeux vont avoir un impact considérable sur les rivières de montagne. Charlène Descolons, ingénieure hydrologue.
Pour les rivières influencées par la neige, on va avoir une disparition de l'onde de fonte, moins de neige, donc plus de pluie. Et donc ça veut dire qu'on va avoir un décalage des périodes de hautes eaux qui sont au printemps avec la fonte des neiges, on va les avoir en hiver, et des basses eaux qui vont s'éterniser en fait en été.
Les torrents glaciaires, quant à eux, vont disparaître à mesure que les glaciers fondent, et là encore, les impacts vont être considérables. Charlène Descolons.
Lorsqu'il y a une baisse de l'enneigement, on a une sécheresse, et donc moins d'eau dans le barrage, et donc moins d'eau disponible pour produire de l'électricité. Donc on peut s'attendre à une baisse de production électrique.
Plus en aval, sur le Rhône, le refroidissement de nos centrales nucléaires va poser problème, et tout au long du parcours, c'est l'industrie de la région, son agriculture et son accès à l'eau potable qui seront affectés.
C'est très inquiétant pour les territoires qui sont en montagne, qui sont habitués à voir de l'eau et qui ne sont pas prêts en fait à avoir les hydrosystèmes et les écosystèmes complètement bouleversés par ce changement climatique.
Pour Charlène Descolons, il est donc fondamental de s'adapter avant que le manque d'eau nous oblige à renoncer à certaines activités vitales pour les zones de montagne. Igor Strauss, Bourg-Saint-Maurice, RFI.
Un mot de tennis, la numéro 2 mondiale Iga Świątek et le Norvégien Casper Ruud, 6e à l'ATP, se sont qualifiés pour le 3e tour du tournoi de Miami. Également qualifié le Français Gaël Monfils. Et puis le monde de la boxe est en deuil, l'Américain George Foreman, légende des poids lourds, mort à 76 ans. C'est ce que vient d'annoncer sa famille. Foreman, ancien champion du monde, était entré dans l'histoire de la boxe après sa défaite face à Mohamed Ali lors du mythique combat de 1974 à Kinshasa. Merci d'écouter RFI. Il est 4h10 à Paris. Toute l'actualité est bien sûr à retrouver sur notre site rfi.fr.